Bienvenue dans l'heure bleue.
L'heure bleue sur France Inter.
Thomas avait l'impression inquiétante que tout avait été mis en scène pour lui. Les gens de la localité étaient des acteurs qui n'avaient fait qu'attendre sa venue pour jouer leur rôle et réciter leur texte. C'était un monde artificiel, un paysage artificiel sous un grand ciel bleu. Thomas traversa la localité à la fois acteur et spectateur de cette pièce. Des voitures passaient lentement, une vendeuse lavait la vitrine d'un magasin de cuir, deux artisans étaient en train de plaisanter avec elle, une jeune femme se penchait au-dessus d'un landau et calmait son bébé. Les gestes et les mots de tous ces gens paraissaient exagérés comme dans une pièce de théâtre montée par des amateurs. Ce soir, nous avons la chance dans l'heure bleue de recevoir l'écrivain Peter Stamm à l'occasion de la publication de son nouveau roman, L'un l'autre. Mais comme chaque soir, et pour Peter, nous allons commencer en musique avec Jaune, visage, paysage, émotion. Nous écoutons Procession.
S'attendre que survienne une amitié qui consolerait des foules, sans doute une armée.
« Peter Stamm, vous êtes écrivain, vous êtes né en Suisse en 1963, vous avez une œuvre déjà considérable. Votre premier roman a obtenu des prix dans le monde entier, il s'intitulait Agnès. Depuis, il y en a eu beaucoup. Il y a eu 7 ans, un jour comme celui-ci, Verglas, Tous les jours sont des nuits, et puis ce dernier qui s'intitule L'un, l'autre. Chez vous, la réalité est décalée. Il y a une sorte de brouillard dans les paysages que vous nous décrivez. Il y a aussi une sorte de brouillard à l'intérieur des êtres que vous nous inventez. Et la fiction et la réalité vivent dans un monde tellement poreux qu'on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Exactement comme un marcheur en montagne essaierait de monter sur la cime de la montagne pour enfin quitter le brouillard de cette réalité. Il n'y parviendra sans doute pas. Est-ce que c'est cela un peu pour vous, l'écriture, Peter Stamm ?
En tout cas, c'est intéressant que vous mentionniez le brouillard, car je viens d'une région où il y a beaucoup de brouillard. Et c'était toujours un peu ma vue du monde, plutôt brouilleux. J'ai jamais eu l'impression que je comprends tout, que je vois tout clair. Et pour moi, l'existence est plein de d'énigmes, plein de d'incertitudes. Oui, c'est ma vie. Bien sûr, j'essaie peut-être de, quand j'écris, de mettre un peu d'ordre dans mes pensées, dans le monde, mais c'est toujours relatif. Disons, j'arrive jamais à vraiment faire de l'ordre dans ma tête.
C'est comment chez vous, Winterthur, puisque c'est aussi le lieu et le paysage mental et bien physique de votre dernier roman.
C'est plutôt, même plus dans l'est, très proche de la frontière allemande. Comment le décrire ? C'est un peu un paysage aléatoire, comme le titre de mon second roman. C'est ni montagneux, ni plat. Il y a peu de monde, beaucoup de fermiers. On produit des fraises et des pommes, des petits villages. Ouais, c'est rien de spécial, très beau, je dirais, mais pas quelque chose d'extraordinaire.
Et c'est quoi le bonheur ?
Le bonheur, oh là là. je sais pas. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de mes livres, les gens essayent d'arrêter le temps. C'est peut-être le bonheur de pouvoir arrêter le temps, que ne rien se passe, qu'on ne meurt plus, qu'on ne devient plus vieux. Peut-être que ça serait là, ça le bonheur pour eux. Mais pour moi, je ne sais pas, je préfère, je crois, le mouvement.
Comment vous est venue l'idée d'écrire ? Parce qu'auparavant, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vécu à New York, en Scandinavie, en France, d'où votre français. Et puis, tout d'un coup, l'écriture est arrivée, et par une sorte de maîtrise absolument étonnante, puisque ce premier livre qui s'intitule Agnès est un traité de littérature, un traité d'amour, un traité de disparition, un traité de suspension du temps. Il vous a fallu beaucoup, beaucoup voyager à travers le monde pour vous rendre compte que vous aviez les mots.
Et beaucoup écrire, en plus. C'est vrai que j'ai sorti mon premier roman quand j'avais 35 ans, mais j'ai commencé à écrire à 20 ans à peu près. Ou même avant, j'ai toujours aimé écrire, et j'ai écrit beaucoup de textes mauvais, affreux, avant que je maîtrisais plus ou moins la langue.
Et ce roman, Agnès, qui commence dans une bibliothèque, car les livres, aussi dans vos romans, ont beaucoup d'importance, la rencontre amoureuse se fait dans une bibliothèque, entre deux êtres. L'une s'appelle Agnès, et l'autre, le narrateur. Entre eux va se tisser un lien, l'homme est plus âgé qu'Agnès, et cependant, l'amour va surgir avec beaucoup d'angoisse du côté du narrateur à cause de cette différence d'âge. Elle est bibliothécaire, la rencontre se passe donc dans cette bibliothèque, et cette jeune femme va continuer en quelque sorte son métier à l'intérieur de l'espace intime que le couple va se construire. Et cette jeune femme va demander à son nouvel amoureux de lui raconter une histoire tous les soirs.
Ou d'écrire un texte sur elle, en effet. Et oui, pour moi, c'était une sorte, peut-être le vœu que nous avons tous d'être reconnus par le partenaire, d'être vus. Et elle pense que peut-être quand il écrit un texte sur elle, qu'elle pourrait comprendre comment elle est vue par son ami. Mais bien sûr, ça, comme d'habitude dans les romans, ça ne va pas bien.
Mais comme si aussi, écrire sur quelqu'un d'autre, c'était le capturer et que c'était forcément dangereux.
Oui. Elle est peut-être un peu naïve, elle est assez jeune, comme vous avez dit. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est dangereux de décrire des personnages.
Agnès est morte. Une histoire l'a tuée. Il ne me reste d'elle que cette histoire. Elle commence il y a 9 mois, le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans la bibliothèque municipale de Chicago. Il faisait froid quand nous avons fait connaissance. Froid, comme presque toujours dans cette ville. Mais aujourd'hui, il fait encore plus froid et il neige. C'est donc cela, le début de votre premier roman, Peter Stamm. Dans tous vos romans, il fait froid, il fait très froid. D'ailleurs, quand nous vous lisons, nous avons froid. Nous avons froid parce que nous avons envie de protéger vos personnages de ce qui va leur arriver. Comment arrivez-vous à les inventer? Comment s'impose-t-il à vous, Peter Stamm?
C'est pas facile à dire. La seule chose que je peux dire, s'ils ne sont pas clairs pour moi dans ma tête, ils ne sont pas bonnes. Alors, si le travail est le plus simple, c'est normalement le texte est le meilleur. Alors, il faut tout de suite que je les vois, que je les comprends, que je sais ce qu'ils font. Je les vois dans ma tête, comme dans un film.
Avant d'être écrivain, on le disait tout à l'heure, vous avez beaucoup voyagé, vous avez aussi beaucoup hésité sur votre vie, puisque vous avez fait de l'informatique, vous avez fait de l'anglais, etc. Et puis, boum, finalement, le premier roman a été tellement reconnu que maintenant, vous êtes devenu écrivain. Est-ce un métier pour vous, Peter Stamm, écrivain ô combien reconnu, puisque ce livre dont nous parlons, le premier, est maintenant enseigné en Allemagne et vous allez beaucoup dans les écoles en parler. C'est un métier, écrivain ?
Oui, oui, je dirais. Disons, je voulais devenir écrivain, mais il n'y avait pas de formation d'écrivain. Aujourd'hui, il y a des études, mais même là, je ne suis pas sûr si ça marche, si on peut apprendre à écrire. Alors je me suis dit, il faut que je sais tout, il faut que je fais des études de quoi que ce soit, tout ce qui m'intéresse. Alors j'ai choisi toutes sortes de cours. Vous avez mentionné ce que j'ai étudié, mais j'ai aussi fait des autres cours. J'ai fait l'histoire d'art ou la langue allemande ou même théologie ou médecine. Alors j'avais juste l'impression, il faut que je sais beaucoup. Mais toujours avec le but de devenir écrivain. Ça a l'air un peu d'un slalom, mais en effet, j'avais un but assez clair. Même à 20 ans.
Nous allons écouter la voix d'Albert Camus. Il va parler de la notion de bonheur. C'est une archive INA non identifiée. Et je crois savoir que c'est un de vos auteurs préférés, Peter Stamm. On l'écoute.
Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais.
Alors, que pensez-vous de la définition du bonheur d'Albert Camus et comment vous a-t-il initié au plaisir de la lecture et à la possibilité qu'un jour, Peter Stamm, vous aussi, vous deviendriez écrivain?
D'abord, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ça. C'est étrange, car je l'ai lu depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi j'adore son œuvre. Bien sûr, c'est le contenu, mais c'est aussi sa langue. Et j'ai toujours eu l'impression que ça serait un homme que j'aimerais bien eu connu, rencontré, que c'était un homme sympathique, un homme fascinant. Oui, je crois qu'il a raison, absolument. Il y a beaucoup de gens qui s'enfuient du bonheur et c'est quelque chose de très, très léger qui vient et qui va sans qu'on peut vraiment faire quelque chose contre. Agnès compare le bonheur avec les petits points sur une image de Seurat, où si on s'approche, c'est comme un brouillard, comme vous avez dit, et seulement si on s'éloigne, on voit que c'était du bonheur, que c'était quelque chose, un moment heureux.
Ben, Camus, c'est l'auteur de L'étranger et de bien d'autres textes, mais dans tous vos textes, Peter Stamm, il y a cette notion d'étrangeté à soi-même. On parlait d'Agnès qui ne comprend pas bien qui elle est et qui le comprendra mieux en regardant un ordinateur ou en regardant le ciel. Mais quand on prend certains de vos autres romans, je pense par exemple au magnifique roman qui s'intitule « 7 ans », on se dit que les personnages que vous avez imaginés pour nous ne savent pas qu'ils sont dans le bonheur et vont se précipiter dans un autre bonheur, croient-ils, parce qu'ils ne sont pas conscients de l'instantanéité du temps et du bonheur qui les habite.
Mmh. Mais il y a toujours des moments heureux dans tous les livres, je dirais. Oui, c'est pas facile à les reconnaître, peut-être. Et c'est pas toujours le bonheur à la fin du livre. Des fois, c'est au milieu du livre. C'est comme dans la vie. À la fin de la vie, on est tout mort. Et alors, on pourrait dire la vie est toujours malheureuse. Mais finalement, on dirait quand même que la vie est quelque chose de, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'heureux. Mais il faut un peu charger le bonheur. C'est pas, ouais.
Charger le bonheur, on est tout mort. Venez-vous de dire, Peter Stamm, mais quand on lit tous vos livres, et c'est un enchantement que de lire vos livres, eh bien on s'aperçoit que, comme vos personnages, nous tous, chacun, nous lecteurs, on a l'impression qu'évidemment, en vous lisant, on ne fait pas corps avec soi-même. Et c'est ça que vous savez si bien décrire. C'est la distance que nous mettons entre ce que nous vivons et ce que nous comprenons de ce que nous vivons. Alors comment décrire cet espace-là et où allez-vous chercher les mots pour le dire?
C'est juste le monde qui m'entoure, que je vois. Et dans le monde que je vois, il y a très peu de gens qui vivent exactement la vie qu'ils veulent vivre, qui se comprennent, qui ont des buts clairs. La difficulté n'est pas de trouver ce monde, mais c'est plutôt de ne pas se tromper. C'est très facile de voir le monde comme on veut le voir et pas comment il est. Il est.
Dans votre dernier livre, c'est l'histoire, on y reviendra tout à l'heure évidemment, mais c'est l'histoire d'un homme qui va très bien, à qui la vie sourit, il a un très bon boulot dans une entreprise, il a une femme qu'il aime, et ça tombe bien, sa femme l'aime aussi, il a 2 enfants adorables, ils viennent de passer des vacances formidables, et pourtant, il va s'en aller. Vous pensez que dans la vie, les gens s'en vont comme ça? Sans crier gare, quand tout va bien?
Ça arrive, disons. Mais c'est même pas la question pour moi, car quand je l'écris dans mon livre, il se passe. C'est pas un reportage, disons, sur un cas qui... Mais je connais des cas où des gens ont disparu sans vraiment qu'on comprenait la raison. Mais c'est plutôt un expériment, peut-être. C'est pas intéressant de laisser partir quelqu'un qui est malheureux. Quand ça, c'est normal. Tout le monde le fait. Pas tout le monde le fait, mais on voit pourquoi quelqu'un le fait. Mais je voulais avoir quelqu'un qui est, comme vous dites, qui est heureux, qui est dans une bonne situation, mais qui quand même se décide de partir.
Ben aujourd'hui, avant de venir à la radio, vous retrouvez, j'ai été, comme souvent vos personnages, dans un petit supermarché, faire mes courses. Et là, j'ai vu une photographie d'un monsieur qui avait disparu. C'est comme s'il m'avait fait signe par rapport à notre rencontre et par rapport à la thématique de votre dernier livre. Vous pensez que ça sert à quelque chose de mettre des photographies pour essayer de retrouver les gens qui partent? Est-ce que les gens qui partent n'ont pas envie, justement, qu'on ne les retrouve pas?
Bon, il y a des cas différents, bien sûr. Quand j'ai parlé à la police, il y a souvent des gens qui ont des maladies mentales ou des gens qui sont malades ou des gens qui... Ou, par exemple, s'il fait très mauvais temps, ils vont chercher les personnages. Mais sinon, en principe, la police m'a dit on a le droit de partir. Personne ne peut... La police ne peut pas vous...
Ah, donc ça veut dire que quand vous faites des livres, vous enquêtez?
Oui, quand même. Car je ne veux pas faire des fautes. Disons, l'histoire, c'est dans ma tête, mais les recherches, je les fais quand même, oui. Et c'était, ça m'a fasciné que la police m'a dit, même si vous, si vous avez une famille, si vous partez, c'est votre choix. Et la police va vous dire que votre femme vous cherche, mais elle ne va pas dire à la femme où vous êtes.
Et elle ne va pas vous arrêter pour vous intimer l'ordre de revenir au domicile familial.
Non.
Ben c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que chacun est libre de choisir sa vie.
Oui, mais je ne veux pas encourager les gens de partir. Quand même, je ne le ferai jamais. Et c'est quand même, moralement, ce n'est pas, c'est pas juste ce qu'il fait.
Ben vous savez que votre littérature est tellement dangereuse qu'elle peut nous donner des idées.
Oui, mais, non, mais des fois, on peut, dans un livre, on peut vivre une idée sans devoir la vivre dans la réalité. Alors, j'espère que les gens lisent mon livre et puis ça suffit. Et ils peuvent rester à la maison avec leurs enfants.
Alors, tous vos personnages de tous vos romans, et c'est particulièrement évident dans votre dernier livre, sont très minutieusement décrits. C'est-à-dire que nous, lecteurs, nous les imaginons. Nous imaginons leur visage, la couleur de leurs cheveux, même la manière de se déplacer dans l'espace, la manière de s'asseoir dans un café, la manière de discuter, la manière de sourire. Je sais que vous aimez beaucoup le cinéma. Nous allons écouter la voix de Jean-Luc Godard, qui va parler de la représentation de la religion dans le cinéma et le roman. C'est une archive INA du 29 novembre 1989.
Il y a eu des peuples qui ont dit « tu ne feras pas d'images ». Il y en a certains qui les ont utilisées juste comme picture. Et puis il y en a qui ont, comme l'Europe, qui a des moments donnés où la qui s'est appelée la représentation du réel, quitte à ce que ça soit plus réel et que le réel devienne même une représentation anticipée ou future de ce réel-là, comme par rapport à la chinoise ou tout ça. Enfin voilà, des grands peintres n'ont souvent pas attendu qu'il y ait des persécutions pour peindre des suppliciés ou des tortionnaires. Ça fait qu'il y a quelque chose. Donc la religion était là dans l'industrie ou dans l'image, comme elle n'était pas forcément, elle est presque imbriquée dans tout film, quel qu'il soit, alors qu'elle n'est pas dans tout roman. Quand vous lisez Dickens, quand vous lisez Zola, quand vous lisez si vous voulez, Madame Bovary, alors la religion ou Stendhal n'est pas là. Je dirais que le roman est presque, par rapport à l'image, l'image est forcément religieuse. Alors que le roman, le grand roman est laïque depuis l'Iliade et l'Odyssée, bien qu'il y mêle les dieux, on sent un sentiment de laïque beaucoup plus que de divinité.
Absolument.
Alors vous, Peter Stamm, vous croyez en la religion ?
Alors d'abord...
D'abord Godard, j'adore. Je sais que vous adorez.
J'adore, oui.
Pourquoi ?
Mais je suis content avec ce qu'il sait. Je trouve
pas
juste
seulement que... parce qu'il est suisse comme vous.
Non, il est même, je crois, il est moitié français, moitié suisse. N'est-ce pas ? On le partage. Non, il est le seul metteur en scène pour moi qui, pendant 50 ans, a fait toujours des trucs nouveaux, qui a toujours se réinventé. Alors, il est absolument fascinant. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, car je ne crois pas, je ne suis pas religieux, pas du tout. Mais je crois quand même que la littérature a toujours été religieuse, d'une sorte. Que la première littérature, probablement, était des textes religieux. Et pour moi, c'est dans les romans, il y a toujours dans mes romans, en tout cas, il y a toujours les grandes questions que je me pose. Et une sorte d'épiphanie arrive quand je crée un monde avec des mots. C'est quand même une sorte, peut-être pas religieux, mais une sorte de magie, peut-être. Ouais. Quand j'écris de la littérature, il y a quelque chose que je, moi-même, ne comprends pas.
Ben, c'est le mystère qui vous guide. C'est pas pour rien que vous avez eu le grand prix Friedrich Hölderlin. On sent bien que... Vous avez lu les romantiques allemands, d'ailleurs vos livres sont traduits en français, vous écrivez en allemand, et on sent bien que c'est le vertige de l'insu qui vous guide, non ?
Oui, absolument, oui. Car juste écrire, juste raconter des histoires, ça ne m'intéresse pas.
Quand même, il y a des histoires.
Oui, mais l'histoire, c'est juste un moyen de transporter des pensées ou de transporter... C'est comme sur une peinture. Quand vous avez une peinture de Cézanne, c'est toujours la même montagne. Ce n'est pas la montagne qui est importante. Quand même, il lui faut une montagne, mais ce n'est pas la montagne qui compte. C'est comment il peint la montagne.
Vous citez Seurat, là, tout à l'heure. Maintenant, vous citez Cézanne. Dans un de vos textes précédents, vous citiez Giacometti. Est-ce que écrire un roman, pour vous, Peter Stamm, ça veut dire revenir sur le métier, faire des aplats de couleurs, se contenter, entre guillemets, d'une espèce de banalité du quotidien pour aller dans fouiller dans l'intériorité des êtres?
C'est pas vraiment l'intérieur qui m'intéresse. Comme vous avez dit, je décris plutôt l'extérieur. Je veux que le lecteur, en regardant mes personnages, les comprend. Je ne veux pas leur dire c'est ça ce qu'ils pensent et c'est ça ce qu'ils ressentent, mais je veux qu'ils le regardent et qu'ils voient comment ils bougent, comment ils, qu'est-ce qu'ils disent, et puis le rencontrent comme une personnage dans la vie réelle. Et souvent, il semble que ça fonctionne. Mais le risque, bien sûr, de cette technique est que pour chacun, c'est une autre personnage.
Mais est-ce qu'on n'est pas, chacun de nous, des personnages que nous ignorons? En tout cas, c'est une question que vous nous posez quand on lit vos romans, Peter Stamm. On ne se connaît pas soi-même.
Oui, et on ne peut pas se connaître, je crois. Car je crois, c'était dans mon roman avant celui-ci, qui s'appelait, je ne sais plus en français, où un personnage dit, un personnage, ce n'est pas quelque chose de fixe, comme une chaise ou une table qui est comme ça, et puis vous pouvez la regarder. Mais un personnage, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui change. Alors, on ne peut pas se connaître comme on n'est pas fixe. Comme Thomas, vous pouvez aller à droite à la place d'aller à gauche, et puis vous avez une nouvelle vie, vous êtes une nouvelle personne.
Vous écoutez France Inter, c'est pas une mauvaise idée. Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Peter Stamm, Youssoundour, Il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le boit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Que qu'on retrouve au soir des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi, comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir, nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux ont aussitôt mouru. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurer dans la nuit, nos cœurs allumés sont. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Il n'y a pas d'amour heureux, et c'est ainsi aussi dans votre univers et dans tous vos romans. Le dernier s'intitule L'un et l'autre. Juste avant, il y avait eu 7 ans. Et je voudrais qu'on parle de la sexualité dans vos livres, Peter Stamm. Car 7 ans aussi est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire d'un jeune couple. Ils sont tous beaux, intelligents, ils s'aiment, ou en tout cas ils croient. Et tout va apparemment bien derrière la vitre de la réalité. Tout leur réussit, ils sont architectes, ils ont une agence, ils ont des tas de commandes. Enfin bref, la vie leur sourit, comme on dit dans les feuilletons. Et puis tout d'un coup, eh bien cet Alexander va tomber éperdument amoureux d'une femme qui est moche, qui sent pas bon, qui est exactement l'opposé de cette tendre et jeune femme qui s'intitule Sonia. Et je vais vous citer, Peter Stamm, dans ce livre « 7 ans ». Voici ce que vous écrivez de la première rencontre entre cette femme et Alexandre. « J'étais très excitée, mais ça n'avait rien à voir avec les autres fois où j'avais couché avec une fille. C'était moins une excitation du corps que de l'esprit, une sorte de sensation chaude, obscure, comme un sentiment de sécurité qui me bouleversait. Je n'ai éprouvé aucune honte quand j'ai retiré mes vêtements, bien que je sois consciente de l'image ridicule que nous devions offrir, un homme nu en train de se frotter contre une femme accoutrée d'horribles vêtements démodés. Ça m'était égal, Iona, inspirée et expirée profondément. Ses mains étaient posées sur mon dos comme si elle voulait me retenir. Sans que rien ne se passe, j'ai eu le sentiment qu'elle se donnait à moi. » Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une femme pour lui? C'est comme une grotte, c'est comme une caverne, c'est comme un refuge.
Là, peut-être, oui. Son problème est que Sonia, la belle femme, est dans presque toutes les choses, elle est mieux que lui. Elle est plus intelligente, elle est plus belle.
Elle est d'une
femme. Oui, je dirais.
Vos hommes sont fragiles dans votre univers.
Oui, comme tous les hommes. Elle vient d'une famille riche. Alors, je crois peut-être dans la sexualité, c'est pas vraiment très. C'est pas facile de faire l'amour avec une femme qui est supérieure, disons, peut-être. En tout cas, pas pour lui. Et peut-être c'est ce qu'il cherche chez Iona, de s'ouvrir totalement, comme il sait elle-même, quoi que je fais, quoi qui je suis, elle-même, sans condition, alors je peux être vraiment comme je suis. Et c'est, je crois que c'est ça ce qui lui fascine.
D'où viennent vos histoires? Est-ce que ce sont des méditations qui vous viennent quand vous marchez longtemps dans la nature? Puisque je crois comprendre que vous habitez dans un endroit où exactement comme votre personnage principal de ce livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule l'un l'autre, qui s'appelle Thomas, et qui marche. Est-ce que tout d'un coup, des images se forment? On parlait de votre amour du cinéma, Peter Stamm, tout à l'heure. Mais vos personnages sont tellement concrets qu'on se demande comment et pourquoi un cinéaste n'a pas encore cherché à utiliser un de vos livres pour en faire un film.
Bon, il y a eu plusieurs projets de films, beaucoup même. Et il y a un film qui est sorti en Allemagne de Agnès cet été, que j'aime beaucoup.
Qu'on va bientôt découvrir en France.
J'espère, je ne sais pas s'ils l'ont vendu en France. Alors, il y a eu des projets, il y a eu deux courts films. Courts-métrages, je crois on dit, d'après des nouvelles. Alors, ça arrive. Mais finalement, toujours quand il y avait des projets, ils ont dit après un moment, au début, ils ont toujours dit, c'est comme un film déjà. Alors, il faut juste prendre une caméra et faire le film. Et finalement, ils ont toujours trouvé que c'est pas si facile de faire un film après mes livres. Je sais pas vraiment pourquoi. Il semble que c'est un film dans la tête, mais de faire un film sur l'écran, c'est quand même autre chose.
Ça veut dire que nous faisons un film
oui.
Quand nous lisons vos livres. Et ça, c'est un effet délibéré de votre part, le suspense.
Oui, c'est vraiment mon but. C'était toujours mon but. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais peut-être c'est un moment, je ne sais pas, j'avais 18 ans peut-être, quand j'ai lu Hemingway pour la première fois. Et c'était vraiment un changement de ma vue sur la littérature. Avant, c'était vraiment, j'ai lu des livres et c'était des histoires qui m'étaient racontées. Et avec Hemingway, pour la première fois, j'ai l'impression que c'est un homme qui peut vraiment créer une réalité. Et ça m'a tellement fasciné que j'ai décidé que c'est ça ce que je vais faire. Peut-être que c'est plus moderne, mais ça ne m'occupe pas.
Ben, vos personnages sont éminemment modernes, ils vivent dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont...
Oui, c'est évident, car...
Ils sont saturés, d'ailleurs, de ce monde d'aujourd'hui. Ils n'en peuvent plus d'Internet, ils n'en peuvent plus d'être connectés, ils n'en peuvent plus d'être repérés, ils n'en peuvent plus d'être surveillés à cause de ces nouvelles technologies qui enserrent, finalement, et qui encerclent nos libertés.
Oui, j'ai jamais compris l'idée du roman historique. Car pour moi, ça ne marche pas, car il faut que je crée un monde que je connais. Je ne peux pas m'imaginer comment c'était de vivre dans le Moyen-Âge.
Thomas, de votre dernier roman, l'un l'autre, Thomas, il a quoi, 35 ans? À peu près.
Ou un peu plus, peut-être.
Et on a l'impression que, ben, quand on sortira de la radio, là, on peut peut-être le rencontrer dans la rue, non?
Ouais. Je crois qu'il passe une fois. Non, par Lyon. Il va par Lyon, pas par Paris. Oui, bien sûr, absolument. C'est comme les peintres, quand vous voyez, pour mentionner encore un autre, Van Gogh, par exemple. Les gens qu'il a peints, c'était le gardien de l'hôpital où il était, ou la femme dont il a loué la chambre. Il a pas pris la plus belle femme de la France, il a pris les gens de la rue. Car encore, c'est pas la personne qui compte, c'est l'art de la peindre.
Alors vous savez, Peter Stamm, dans notre émission, nous demandons à quelqu'un qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer. Nous avons demandé à une romancière que nous aimons infiniment, qui s'appelle Linda Lay, de parler de vous. Et ça tombait bien, parce qu'évidemment, comme moi, mais comme beaucoup d'autres auditeurs, elle est addicte depuis longtemps de vos romans. Écoutez ce qu'elle dit de vous, Linda Lay.
Je crois que ce qu'il faudrait peut-être dire avant tout, c'est que on doit se méfier un petit peu avant d'entrer dans l'univers de Peter Stamm. Parce que ce sont des livres un peu comme ceux de Robert Walzer, qui ont l'air de rien, mais qui ont un fort pouvoir de perturbation. La preuve en est le tout dernier livre, L'un l'autre, dont le titre dit bien aussi le côté double facette, le côté triple fond même de ces livres. Et il raconte l'histoire de quelqu'un qui, un beau jour, quitte son domicile familial, conjugal. Mais je crois que le sujet du livre n'est pas vraiment le désir de quitter, de tout laisser tomber. Je pense que c'est le thème le plus profond, c'est plutôt le désir de mener, d'avoir deux, trois vies en une. Et c'est en cela que les livres de Peter Stamm sont des livres toujours de questionnement. Ils ont quelque chose de très explosif en eux, en cela qu'ils ont l'air de se donner pour des livres très simples, avec un grand art de la concision. En même temps, ils racontent des histoires de séismes, en fait, de séismes intimes. Ce sont de véritables tremblements de terre qui se passent dans la sphère personnelle. Et aussi, peut-être plus particulièrement pour le dernier livre, L'un l'autre, c'est très cinématographique. Ça m'a fait penser à un merveilleux film de Raoul Ruiz qui s'appelle Trois vies et une seule mort, avec Marcello Mastroianni, où il y a un personnage, un peu comme le personnage de Peter Stamm, qui quitte sa maison, s'en va vivre en face de chez lui pendant 20 ans, et au bout de ces 20 années, il revient chez lui comme si de rien n'était. Une sorte d'Ulysse moderne qui revient chez lui et même son chien le reconnaît. Et il y a un passage dans le livre de Peter Stamm, un peu comme chez Homer, son chien le reconnaît. Et c'est le premier personnage de la maison qui le reconnaisse. J'ai l'impression que la question centrale, souvent, dans ces livres, c'est qu'est-ce que se connaître? Qu'est-ce que ne plus se reconnaître à un certain moment, et qu'est-ce que c'est que de devenir étranger à soi? C'est un peu parfois le fil conducteur de certains de ses livres.
The touch of your lips upon my face. Your lips that are cold and sweet, such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat
Quand il était parti la nuit, il s'était dirigé instinctivement vers l'ouest. Maintenant, il réfléchissait pour la première fois au chemin qu'il allait prendre. S'il continuait à suivre la vallée, il ne tarderait pas à rejoindre la ville. Des zones où il y avait trop de lumière, trop de gens et guère de possibilités de se cacher. Même la nuit, il ne se sentirait pas en sécurité là-bas. Il lui fallait aller vers le sud, des régions de collines et de montagnes. Ça, c'est la description de Thomas, qui est déjà parti de chez lui, comme ça, sans crier gare, sans l'avoir vraiment décidé, sans détester sa femme, il continue à l'aimer, mais il part. Il part, il ne sait pas pourquoi, mais il ne fuit pas. Pourquoi part-il, selon vous? Nous venons d'entendre Linda Lee parler de votre travail, Peter Stamm, elle parlait de Robert Walser. Et effectivement, on peut penser à l'univers de Robert Walser. On peut penser aussi par moments à l'univers de Thomas Bernhard. On peut surtout penser à l'univers que vous réussissez à inventer, où il n'y a jamais de psychologie, mais il y a des atmosphères, comme exactement ce Chet Baker que vous avez choisi et que nous venons d'entendre. Pourquoi s'en va-t-il ?
C'est difficile à dire, mais c'est intéressant que vous dites Robert Walser, comme, ou que Linda Lee dit Robert Walser. Comme lui aussi, j'ai l'impression, il s'est enfui de sa propre vie en allant dans cet asile où il a vécu les derniers 30 ans, je crois, de sa vie. Il s'est enfui. J'ai pas l'impression qu'il était vraiment fou. Il cherchait peut-être un état de, je sais pas, où rien ne se passe. Où on l'a demandé une fois pourquoi il n'écrivait plus. Il a dit, je suis ici pour être fou, pas pour écrire. J'ai l'impression que c'est une sorte de, comme dans le bouddhisme, une sorte presque méditation. Je ne sais pas pourquoi il part. J'ai une théorie, c'est que Thomas est presque trop heureux, qu'il veut arrêter le temps, comme j'ai dit, en partant. Car quand il part, il va garder sa famille, ses enfants, sa femme dans la tête et ils ne vont plus changer. Quand il reste, les enfants vont partir un jour, la femme va... Un des deux va mourir un jour, alors peut-être c'est juste qu'il ne supporte pas que les choses changent.
Il en a assez de son bonheur, il ne veut plus s'en contenter, il veut se mettre à l'épreuve lui-même, en tout cas il le fait physiquement, parce que c'est un jeune homme, il va bien, il est en forme, mais pour pouvoir vivre ce qu'il a décidé d'endurer, c'est-à-dire d'être une sorte de vagabond. Là aussi, il y a le thème du vagabondage qui est cher au romantisme allemand. Il y a le thème de celui qui ne choisit jamais de chemin, qui décide de se perdre, d'aller à l'aventure, même au mépris de sa propre vie.
Oui, et je crois quand même qu'il ne cherche pas vraiment l'aventure. Il veut pas une autre fille, il veut pas d'autres femmes ou bon, il a une petite affaire une fois.
Oui, mais... il a une copine quand même dans une auberge.
Oui,
hein.
Oui, d'accord. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'il cherche. Et c'est intéressant. La femme de mon traducteur anglais a dit que c'était mon premier roman d'amour que j'avais écrit. J'étais très content de ça, même si les deux sont ensemble dans tout le livre peut-être une heure ou une demi-heure. Mais j'étais très content qu'elle a lu ce livre comme un livre d'amour.
Pensez-vous que vraiment ce livre est un livre d'amour? Alors on va pas expliquer ce qui se passe dans ce roman, parce que les auditeurs qui le voudront vont découvrir. Mais est-ce que ça se rêve, l'amour? Est-ce que ça se vit? Est-ce que ça s'expérimente? Est-ce que c'est uniquement mental? Mais ça peut quand même être aussi physique, non?
Bien sûr, mais je dirais quand même juste...
On quitte pas quand même la personne qu'on aime sans lui laisser deux mots, en l'angoissant comme c'est pas possible, en ne laissant aucune nouvelle à personne, y compris deux enfants tout petits,
comme preuve d'amour. La question morale ne m'intéresse pas. Et bien sûr, c'est pas moral ce qu'il fait. Mais je crois que les deux se sentent plus proches après qu'il est parti qu'avant. Avant, ils sont un peu perdus dans le quotidien, peut-être. Et après qu'il est parti, ils pensent tout le temps, l'un pense à l'autre. Et il n'y a aucun sentiment négatif du part de la femme, par exemple. Elle n'est pas furieuse.
Alors, on va revenir sur les mystères de la femme, mais il faut aussi dire, Peter Stamm, que c'est votre style qui crée cet univers. Ce style, il est fait, justement, d'absence totale de psychologie, d'absence totale de morale, et d'une sorte de déploiement dans l'imaginaire de... l'itinéraire mental et psychique et l'évolution d'un être. Vous disiez, ben après tout, on peut se réinventer nos vies. Demain matin, on peut avoir une nouvelle vie. Et puis après-demain, peut-être encore une autre nouvelle vie. La vie n'est que mouvement et métamorphose. Et en vous lisant, et ça depuis longtemps, mais en lisant votre dernier livre qui vient de sortir, l'un et l'autre, eh bien évidemment, on pense aussi à Georges Perec. Georges Perec qu'on va écouter au moment de la publication de ce roman « La disparition, Archivina » du 22 septembre 1978.
C'est un travail, on commence par faire un dictionnaire, avec en prenant tous les verbes qui comme parcourir, courir, mourir, pas sourire parce qu'il y a un E, mais il sourit. Après on s'aperçoit que nous n'irons plus au bois, il n'y a pas de E dedans. Ça a l'air impossible. Oui. Et puis ensuite ça devient grisant, mais vraiment grisant.
Et puis on prend une distance aussi.
Et puis
avec les mots.
Oui, et puis toute l'histoire se raconte, je veux dire, d'une certaine manière d'elle-même. Et ça c'est un livre que j'ai écrit extrêmement vite, en un an. Alors c'est là une des fois où j'ai découvert le plaisir de raconter des histoires, qui est quelque chose qui était assez occulté dans les littératures contemporaines. Je veux dire le goût du presque du roman populaire, de la péripétie, du cap et d'épée, les meurtres, les assassinats, les viols, les sagas familiales. Enfin tout ça c'était un peu tout ce qu'il y a dans Dumas, dans Jules Verne, dans
Dostoïevski aussi.
Oui, d'une certaine manière. Pour moi c'était vraiment le romanesque. Alors, dans La disparition, c'était un romanesque expérimental, puisque ça partait de ce postulat qui était un peu lourd. C'est-à-dire que, en fait, c'était trop, d'une certaine manière, trop visible. Même si des gens pouvaient lire La disparition sans s'apercevoir qu'il n'y avait pas de E, le procédé était affiché une fois pour toutes.
Alors, on sait que Georges Perec appartenait à ce mouvement littéraire qui existe encore aujourd'hui, l'Oulipo, l'ouvreur de littérature potentielle. Vous ne jouez pas avec les mots, Peter Stamm, mais cependant, il y a une orfèvrerie dans le langage le plus simple, le plus dépouillé que vous utilisez pour raconter vos histoires, car une histoire dans chaque roman tient lieu de suspense, je le répète, et pour décrire vos personnages.
Peut-être j'essaie de faire disparaître ma langue en écrivant, que le lecteur oublie qu'il lit un livre. Ça serait mon idéal. J'adore Georges Perec. Vous avez choisi tous les gens que j'adore aujourd'hui, alors bon choix. Oui, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais vraiment intéressé des jeux de mots. Bon, j'ai écrit, pendant des années, j'ai écrit des textes pour un magazine,
des nouvelles?
Non, des textes, textes satiriques. Et là, j'ai joué beaucoup avec des mots. J'ai fait toutes sortes de jeux. Et à un certain moment, ça m'a plus intéressé. Et j'ai arrêté. Mais il faut quand même dire, même ces livres, c'est une sorte de jeu aussi. Aussi un jeu avec le lecteur. Car souvent, on se dit, je vais essayer, si je peux aller si loin, de vraiment faire ça dans mon livre. Par exemple, de faire disparaître un personnage qui est totalement heureux, ou de faire tomber amoureux un homme avec une femme totalement pas attractive. Alors c'est aussi un jeu, et si le lecteur joue avec moi, il se laisse tirer dans cette histoire.
Eh bien écoutez, vous réussissez très bien. Alors je vais faire comme Jacques Chancel dont on vient d'entendre la voix, la dernière question, mais vous n'avez qu'une minute, même pas, pour y répondre, mais c'est une question essentielle qui se pose à la lecture de vos livres. Y a-t-il une vie après la mort, Peter Stamm?
Je ne crois pas, non.
Et l'amour dure toujours?
Bon, comme la vie n'est pas éternelle, l'amour ne l'est non plus.
Eh bien voilà, pour les auditeurs, s'ils veulent comprendre l'univers de Peter Stamm, au cas où ils ne le connaîtraient pas encore, eh bien, il faut les découvrir. Tous ces livres sont publiés en poche. Tous ces livres sont publiés chez Christian Bourgois. Tous ces livres sont traduits. Le dernier qui vient de sortir s'intitule « L'un l'autre » et il est traduit de l'allemand par Pierre Deus. Merci infiniment, Peter Stamm.
Merci à vous.
See people being led by the righteous hand.
taking care of everyone like they were on a piece of land. Show me, show me, show me. Do you see people's lives being lost on the sacred land? In the battle over water being fought for the baby's hand. Show me. Show me. Show me. Show me. When the women of the world are free to stand up for themselves. Stop gathering dust on the shelves. Show me. Show me. Show me. Show me. Well, I hear you out there when you say you have to say. I know how you feel, 'cause that's what made me this way. When heaven on earth is improved by the hand of man, and people everywhere get together and join their hands. Show me. Show me.
Vous avez bien sûr reconnu le nouveau Neil Young et peut-être ce nouveau titre, Show Me. Merci à vous, Peter Stamm. Merci à Laurent Thomas qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Arthur Daniel et Thierry Dupin, avec à la technique ce soir Alice Berger. Merci à toutes et à tous. Et après le prochain journal de la rédaction, comme chaque soir, vous avez rendez-vous avec notre ami Mishka pour A Very Good Trip.